Seigneur, que cette parole que nous allons partager puisse véritablement nous être utile parce que venant de toi, pour avancer sur notre route, pour prendre des décisions pour toi. Que serait cette parole si elle restait comme une semence dans une terre sans germer, sans porter du fruit. Garde-nous, Seigneur, de passer à côté de l'œuvre que tu veux accomplir dans nos vies. Amen. Ce matin, j'aimerais lire, commencer ce temps de partage par la lecture de deux textes qui vont vous sembler très éloignés l'un de l'autre. Le premier texte est dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 23 et au verset 8. Deuxième livre de Samuel, chapitre 23 et verset 8. C'est le genre de texte sur lequel on ne s'arrête pas forcément. À la fin de sa vie, lorsque David eut posé les dernières paroles, il est dit ceci: « Voici les noms des vaillants hommes de David, Yocheb Bachébet, le Takémonite, chef de division. C'est lui qui brandit sa lance sur 800 hommes qu'il transperça en une seule fois. » Là, je vois des yeux qui se disent « Quoi ?» J'ai déjà vu des grandes brochettes, mais alors à ce point-là. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Aoï. Il était l'un des trois vaillants hommes qui défièrent avec David les Philistins qui s'étaient rassemblés là pour le combat, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. C'est lui qui se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main soit lasse et qu'elle reste collée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Et le peuple revint à la suite d'Éléazar seulement pour prendre les dépouilles. C'est-à-dire les dépouilles et les biens qui étaient avec. Après lui, Shama, fils d'Agé de Harar. Les Philistins s'étaient rassemblés à Lehi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles et le peuple fuyait devant les Philistins. Shama se tint debout au milieu de la pièce, la reprit et frappa les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Le deuxième texte que j'aimerais lire avec vous se trouve dans Ésaïe, chapitre 53. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence, ni éclat, pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face, il était méprisé, et nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Et le châtiment qui nous a donné la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité. Il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été emporté par la violence et le jugement. Dans sa génération, qui s'est soucié de ce qu'il était retranché de la terre des vivants? À cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints. On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche, quoiqu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après s'être livré en sacrifice de culpabilité. Il verra une descendance et prolongera ses jours, et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Quel rapport entre ce texte d'Ésaïe et le texte que nous avons lu dans 2 Samuel. Si je vous posais la question, est-ce que vous aimeriez être Yocheb-Bachébeth, le tachémoniste, chef de division, grand et vaillant héros qui transperce 800 hommes en une seule fois avec sa lance? Est-ce que c'est ce portrait-là de héros qui vous attire? Ou bien Éléazar, alors que tout le monde était parti, s'était défilé, réfugié dans les hauteurs, se caché, et qui s'est mis à combattre pour l'Éternel jusqu'à ce que sa main soit collée à son épée? Ou bien Shammah, qui se tient au milieu d'une pièce de légumineuse et qui se battra jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il reprenne le terrain qui avait été perdu? Ou bien cet homme, en toute humilité, que rien n'attirait au niveau du regard, humble, sans attrait, et qui est allé jusqu'au bout, du don de soi, sans que personne n'élève la voix? Quel est le héros que vous voulez être? Alors c'est vrai que quand je me suis converti, moi, l'Ancien Testament était peuplé de héros dont la foi, les actes, la bravoure attiraient mon regard. Ah, qu'est-ce que j'aimais! Les Samson, les Gédéon, les Abraham, les Moïse, jetant un bâton, se transformant en serpent, mangeant le bâton des magiciens de Pharaon. Tant de héros. Un Joseph, jeté, rejeté, trahi, devenant premier ministre de la cour de Pharaon. On avait acheté avec Francine toute la collection, vous savez, de l'Ancien Testament en vidéo. On en avait, je ne sais plus, six ou sept, sur tous les grands héros de la foi. Il y en a un qui a disparu, qui a été barboté par un de nos enfants. Il s'est dit, je vous laisse les autres, mais celui-là, je le prends. C'était le DVD qui racontait l'histoire de Joseph. Quel héros a dit, ah, celui-là, je le prends. Ce qui fait qu'il manque juste ce DVD de ce héros que j'aime tellement. Quel héros voulons-nous être? Sommes-nous appelés à être? C'est quoi un héros? Là, dans le texte du livre de Samuel, il est dit qu'à la fin de sa vie, il y a le recensement de tous ceux qui ont été des grandes figures, ou en tout cas des personnes dont la foi, l'attitude, le comportement ont été un modèle pendant la vie et la royauté de David. C'est quoi un héros? On dit qu'un héros, c'est quelqu'un qui connaît la peur, mais qui sait la transcender. Parce que quand on entend, comme ce matin, une parole que Dieu donne en disant « J'ai besoin de toi, je t'appelle, j'ai besoin de toi pour me révéler au monde. » Je suis certain que parmi nous, il y en a qui se disent « J'ai pas la carrure. Je n'ai pas les capacités. Je n'ai pas ce qu'il faut pour que je sois comme lui ou comme elle, un héros, H-E-R-A-U-L-T, de Dieu, ou un héros, H-E-R-O-S, pour Dieu. Je ne suis pas capable. Je suis trop jeune. Je suis trop vieux ou trop vieille. J'ai pas encore assez de force. Ou mes forces ont diminué, je suis dans l'âge où je dois me reposer. Nous avons plein de raisons devant l'appel de Dieu pour que nous disions « ce n'est pas possible pour moi aujourd'hui ». Un héros, c'est quelqu'un qui connaît la peur, mais qui la transcende. Avoir la foi, ce n'est pas être dans une attitude où on n'a pas de crainte ou de peur. Avoir la foi, c'est transcender, dépasser, parce qu'on sait qui est avec moi. J'ai l'habitude de dire qu'un homme ou une femme qui agirait sans peur ou qui dirait « je n'ai aucune crainte, aucune peur » dans quelque domaine que ce soit, serait un fou. Parce que la peur est utile, elle permet de poser les limites et de savoir sur qui on s'appuie, sur moi ou sur le Seigneur. Quand Dieu ce matin parlait, il dit « j'ai besoin de toi, j'ai fait le choix d'avoir besoin de toi ». Attends Seigneur, t'as Michel, t'as Gabriel, qu'est-ce que t'as besoin de Jean-Marc ? J'ai fait le choix d'avoir besoin de toi, dit Dieu ce matin. Avec tes limites, avec tes peurs, avec tes craintes, avec tes manques. Mais j'ai fait le choix d'avoir besoin de toi. Où est-ce que tu es? Où est ton oui? Où est peut-être ton non? La peur ne doit pas nous enfermer. Une phobie, une peur d'eux, on a plein de peurs. Plein de peurs. Est-ce qu'elles doivent être enfermantes? Est-ce qu'elles doivent nous limiter? Est-ce qu'elles doivent empêcher l'appel de Dieu de s'accomplir dans notre vie? Trop d'hommes et de femmes sont limités par les craintes qu'ils maintiennent dans leur vie. Ah, je suis... S'ils savaient... Comment il peut dire ça? C'est facile au micro de dire ça. Mais s'ils savaient ce que je vis, ce que je suis, ils ne se permettraient pas. Quel jugement! Jean-Marc, c'est quelqu'un qui juge. S'il savait. Mais en fait, la réalité, c'est nous sommes les gardiens de nos prisons. C'est nous qui avons les clés. Christ est venu pour nous affranchir de toutes nos peurs, nos craintes qui peuvent nous enfermer. Il ne dit pas qu'il va faire tout disparaître pour que nous soyons d'un seul bloc d'assurance et de foi, mais il dit pour qu'avec moi, vous puissiez sortir de vos limites, dépasser vos limites. Nous sommes les gardiens de nos prisons. Est-ce qu'on peut dire que maintenir en place des peurs qui nous enferment, c'est du péché? Voilà, je vais peut-être un peu loin. Mais ne pas laisser Christ accomplir l'œuvre de libération qui nous permet de dépasser nos peurs. Refuser qu'il ait cette capacité d'agir en nous. Alors oui, j'ose dire que c'est du péché. Le mot « les vaillants hommes » de David nous parle d'hommes qui ont fait des actes de bravoure étonnants. Alors c'est vrai que quand j'ai lu la première fois ce passage, je me suis dit « oh !» J'ai eu la même tête que j'ai vue devant moi sur... Yocheb Bachébet, qui brandit sa lance sur 800 hommes, qu'il transperça. J'ai vu sur certains visages, quoi? Et là, on se dit, non. Moi, je ne peux pas être de cette dimension-là. Ouais. Alors, je me dis, mais pourquoi c'est dans la Bible, alors? Pourquoi est-ce que Dieu place dans l'Écriture des hommes dont il nous dit, voilà, ça, c'était des hommes qui étaient des héros de Dieu? Or, c'était peut-être pour dire, voyez, ça, c'est l'image idéale ou extrême. Et puis ça me fait penser à ce verset de l'Épître aux Hébreux où il est dit, à un moment donné, Élie était un homme comme nous. Comme nous. Puis alors là, je retourne dans le livre des rois, etc. Puis je relis l'histoire d'Élie et je me dis, attends, comme nous. Lui, c'était un petit bras quand même. Parce qu'à côté de Jochebed-Bachébeth, Élie, c'était un petit gabarit. Lui, il a seulement tué 450 prophètes de Baal au petit déjeuner. Pas 800, 450. Et après, on nous dit, c'est un homme comme nous. Je voudrais juste savoir parmi vous, qui a tué 450 prophètes de Baal dernièrement? Vous pouvez lever la main? Juste pour ça. Personne. C'était un homme comme nous. En fait, on s'aperçoit que quand Dieu dit cela, il dit, nous avons la capacité d'avoir une foi qui soit de la même nature. Et nous pouvons, nous aussi, Élie a été découragé. À un moment donné, il est tombé en dépression. Et il a dit, mais Seigneur, je ne vaux pas mieux que mes pères, je suis nul, puis je ne vaux rien, et puis il a dit, fais-moi mourir, Seigneur. Alors oui, il était un homme comme nous. Et la question, c'est, est-ce que nous pouvons tirer de la parole de Dieu un enseignement qui nous dise, mais ces héros-là, qu'est-ce qui les a fait tenir debout? Je dirais qu'une société, elle a les héros qu'elle mérite. Hein. Si on faisait une liste des héros modernes, on aurait peut-être quelques difficultés à la remplir. Je ne sais pas quels sont vos héros. Moi, il y a une femme qui, pour moi, est une héroïne qui n'est pas, je ne sais pas si elle était chrétienne ou pas chrétienne, elle était d'origine juive, c'est Simone Veil. Pour moi, Simone Veil est une femme dans notre société moderne qui a été une héroïne d'exception. Quand je vois sa vie, j'ai lu son autobiographie, je me dis, mais waouh, quelle capacité à croire, à espérer. Hier, j'ai un ami qui m'a appelé et qui m'a dit, tu prêches sur quoi demain? Un ami commun de la région parisienne. Et je dis, bah, j'ai une piste, je sais que je vais prêcher. Et puis j'hésite encore aussi avec une autre. J'ai entendu une phrase il y a 4-5 ans, et depuis 4-5 ans, je me dis, cette phrase-là, c'est une phrase qui pourrait servir comme point de départ d'une prédication. Et je dis, mais je suis plutôt sur... Voilà, j'ai plusieurs choses. Et cette phrase, c'est celle de Claude Lévi-Strauss, que j'avais entendue il y a de nombreuses années à la radio, cité parce qu'il était déjà décédé, et décédé il y a une dizaine d'années. Il disait, une société se construit sur trois choses. Les espérances, les peurs et les tentations. Et j'ai trouvé ça tellement juste. Une société humaine, c'est un des plus grands, on peut considérer que c'est une des références en ethnologie et sociologie, Claude Lévi-Strauss, et il disait ceci, une société se construit sur les espérances, les peurs et les tentations. Et ceux qui deviennent des héros sont soit des héros qui sont dans l'espérance, soit des personnes qui se basent sur les peurs des autres, soit sur les tentations qu'il peut y avoir dans notre monde et qui font qu'on va devenir un entre guillemets, héros ou prendre la place des héros. Une société a les héros qu'elle mérite. Est-ce que Christ est notre héros aujourd'hui? Est-ce que, quand on relit Ésaïe 53, on se dit « Waouh, quel héros !» Non, non. Parce que c'est presque un anti-héros. Il vient dans l'humilité. Celui qui a d'un seul mot créé le ciel et la terre vient en catimini dans une bergerie du côté de Bethléem. Il marchera sans avoir un lieu où reposer sa tête. Il sera SDF toute sa vie. Et puis il finira sur une croix, condamné, jugé, humilié, objet des crachats et des colibés. Qui veut être un héros comme cela aujourd'hui? Et pourtant, c'est ce chemin qu'il a choisi pour qu'aujourd'hui je puisse dire « Waouh, Christ est mon héros ». Il est véritablement celui qui a fait la chose la plus phénoménale qui soit. Il n'a pas transpercé 800 hommes avec une lance. Il a sauvé l'humanité tout entière. N'est-ce pas le héros de vos cœurs? Avez-vous envie d'être un héros de cette nature? Quels sont les héros qui dominent dans notre vie aujourd'hui? Steve Jobs? Bill Gates? Jean Moulin? J'aime beaucoup la photo très romantique de Jean Moulin, qui était à la fois un préfet et un artiste. Antoine de Saint-Exupéry? Simone Veil, que je citais tout à l'heure? Si on demandait aux plus jeunes, ils nous diraient Harry Potter. Quels sont les héros? Une société a les héros qu'elle mérite. Et nous avons besoin de modèles, nous avons besoin de héros. C'est-à-dire que nous avons besoin de personnes que nous puissions imiter en disant « c'est cela mon modèle et ce à quoi j'aspire dans ma vie. Ce sont les valeurs que j'ai envie de porter. » Est-ce que ce sont celles de Christ ou est-ce que ce sont celles du monde? Aussi bonnes soient-elles. C'est ce qu'on appelle le phénomène du désir mimétique. L'apôtre Paul parlait de cela en disant « Soyez mes imitateurs comme moi je suis l'imitateur de Jésus-Christ. » Mais nous, aujourd'hui, on imite qui? Quel est notre désir mimétique? Une société a besoin de modèles. Regardez sur les écrans de télé. Regardez dans les journaux, dans Voici, Gala, etc. Quels sont les modèles qui nous sont proposés? Qu'est-ce qui dicte nos choix dans le quotidien? Est-ce que ce sont le dernier top modèle, qui porte telle robe, telle paire de chaussures et qui fait que j'aspire à? Ou celui qui dit que le dernier Samsung, je ne sais même plus à combien on est, 10, 12, 13, 14, 15, c'est mon modèle? Ou bien est-ce que c'est Jésus-Christ? Dans notre société, nous avons besoin de modèles et de héros pour dire quelles sont nos valeurs, quel est le chemin que nous voulons emprunter. Et à contrario, il y a des boucs émissaires, ceux auxquels on ne veut surtout pas ressembler. Et très étrangement, si nous avons choisi Christ comme héros et modèle, la société et ce monde prend Christ comme bouc émissaire. Surtout ne pas lui ressembler. Surtout dénigrer ses valeurs, ce qu'il est, son message. Je reviens sur ma lecture de Luc Ferry sur la philosophie et dont le point de départ est une négation pleine et entière de la foi, de l'espérance en Christ. C'est un bouc émissaire. Surtout ne pas lui ressembler. Quelle est notre espérance? Quel est notre héros? Dans le livre de Samuel, on nous propose trois héros. Alors c'est vrai que quand j'ai lu ces premiers noms, ces trois vaillants héros, je me suis dit, bon, moi, ni le premier, ni le deuxième, ni le troisième. Déjà, le deuxième, il était le fils de Dodo, ça ne m'inspirait pas. Je ne sais pas pourquoi. Et puis, en relisant les textes, je me suis dit, tiens, mais s'ils sont là, qu'est-ce qu'ils me disent? Et en fait, la parole de Dieu nous dit que le premier héros s'appelait Bachébeth, le Tachémonite, Yocheb Bachébeth. Mais, très étrangement, il est cité dans le livre des Chroniques, au chapitre 11, premier livre des Chroniques. Il a un autre nom, il s'appelle Yashobéam, ce qui veut dire que le peuple retourne. Et son premier nom, celui qui est cité ici dans le livre de Samuel, Yocheb Bachébeth, ça veut dire qui siège au conseil. Il avait une double identité. Et là, tout à coup, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Qu'est-ce qui fait de lui un héros? Parce que, excusez-moi, faire une brochette de 800 adversaires, ce n'est pas forcément ce qui me fait rêver. Mais cet homme-là, il avait une double identité. Sa double identité, tout à coup, m'a intéressé. Parce que son premier nom, c'est celui qui siège au conseil. Sous-entendu au conseil de Dieu. Qui a sa place au conseil de Dieu. Qui assiste aux décisions de Dieu. Qui reçoit la parole de Dieu. Qui sait quelle est la direction que Dieu veut donner à son peuple. Et tout à coup, je me suis dit, mais cet homme-là, qui avait une division de 24 000 hommes, il ne marchait pas par sa propre pensée, ses propres désirs. Il prenait ses ordres parce qu'il siégeait au conseil de Dieu. C'est ça son identité. Alors ça m'a fait penser à la parole de Jérémie, chapitre 23, verset 22, où Dieu dit, s'ils avaient assisté à mon conseil, c'est un reproche qu'il fait à Israël, s'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leur agissement. C'est un reproche que Dieu adresse aux responsables religieux d'Israël. S'ils avaient assisté à mon conseil, mais ils étaient où ? Où étaient les responsables religieux d'Israël ? Pas au conseil de Dieu. Ils prenaient leur conseil entre eux. Ils se rassemblaient en conseil d'église. Puis il y en a un qui disait à Michel, « Michel, qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire ?» Michel qui répondait, « Je ne sais pas, il faut que je réfléchisse, mais raisonnablement parlant, peut-être qu'on pourrait faire ce choix-là. » C'est peut-être un des problèmes de l'église aujourd'hui. Est-ce que ceux qui sont placés par Dieu pour conduire l'Église, est-ce que les chrétiens dans l'Église siègent au conseil de Dieu ? Alors certains vont me dire, mais il est où ? Je ne sais pas, allez voir, peut-être à la préfecture, à la mairie de Quévin, au siège de l'association Les Amis de Quévin, au conseil national de l'Église apostolique, je ne sais pas. Qui siège et où se trouve le siège du conseil ? Ah, Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a tant aimés, nous qui étions morts pour nos offenses, nous a rendus à la vie par Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens 2, 4. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous siégeons au conseil de Dieu. Vous y êtes allé quand pour la dernière fois ? Au conseil de Dieu. Pour savoir quelle direction prendre. Pour savoir comment mener le combat dans votre vie. Pour savoir comment la victoire pouvait être assuré. Quand avons-nous siégé dans les lieux célestes en Jésus-Christ pour la dernière fois ? Quand est-ce que nous avons eu cette conscience que nous pouvions élever notre vie au point de dire « Je siège avec Christ » et toutes les choses me sont soumises en Christ. Parfois, nous paraissons bien fragiles. Nous nous croyons très fragiles dans l'incapacité de remporter des victoires, de faire des choix, de prendre des décisions. Mais nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ, comme Yosheb Bachébet, dont le nom voulait dire « celui qui siège au conseil ». Pourquoi il était un héros ? Parce qu'il siégeait au conseil de Dieu. Pourquoi nous pouvons être des héros de la foi ? Parce que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que je suis membre du conseil pastoral ou de l'équipe pastorale de l'église apostolique de Quévin. C'est parce que je suis assis dans les lieux célestes. Je voudrais juste savoir si parmi vous, il y en a qui ont un siège prévu dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il y en a qui n'ont pas de siège ? J'aime bien parce qu'il y en a, il y a des petites mains qui se lèvent. Moi, j'ai un strapontin. Je ne sais pas, mais j'ai un petit coin. Qui est assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ ? Tous ceux qui appartiennent au Christ. Nous siégeons, comme Yochebed portait ce nom. Je suis celui qui siège au conseil de Dieu. Quand quelqu'un me rencontre et qu'il me dit, mais quelle validité as-tu dans ta vie pour revendiquer d'être différent ? Au moins, je n'ai aucune revendication. Je peux vous sortir la liste de tous les conseils d'administration auxquels j'appartiens, et il y en a quelques-uns, de toutes les équipes auxquelles je dois avec lesquelles je travaille, etc. etc. Dans l'éternité, ces positions-là disparaîtront. Il y en a une qui restera. Je suis assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Il m'a emporté avec lui, il m'assoit dans le conseil de Dieu. Et tout ce que je vis, tout ce que je peux prendre comme décision, c'est à ce niveau-là que ça va se situer. Celui qui siège au conseil. Le deuxième nom de cet homme, Yocheb-Bachébet, c'est Yashobam, que le peuple retourne. Ah, qu'est-ce que ça veut dire, ça, que le peuple retourne ? Mais en fait, c'est une formule qui nous vient notamment d'Ésaïe. Le peuple qui retourne, c'est le peuple qui revient à Dieu. Le fameux chouv, revenir, revenir à Dieu. Ce qui fait de cet homme un héros, ce n'est pas qu'il ait transpercé 800 hommes avec sa lance, avec ses 24 000 soldats. C'est le fait qu'il est dans une attitude, une position où il est appelé à faire en sorte que le peuple revienne à Dieu, retourne. Je suis celui qui permet que le peuple retourne à Dieu. C'est mon identité. J'aimerais redire ce que Dieu a dit tout à l'heure. Je t'appelle, j'ai besoin de toi pour me révéler au monde. J'ai besoin de toi pour me révéler au monde. Mais pour faire quoi ? Pour dire au monde qu'il n'est pas joli, qu'il n'est pas beau, qu'il est vilain ? Non, j'ai besoin de toi pour me révéler au monde afin que le monde revienne à moi. Que le peuple retourne à Dieu. C'est pour cela que Dieu nous a appelés ce matin. Chacun pour notre part, et là je ne vais pas vous faire lever la main, chacun pour notre part, même ceux qui n'ont pas encore peut-être fait le choix de se donner à Dieu, nous sommes appelés par Dieu pour que, au travers de nous, notre identité soit « Je permets, par mon oui à Dieu, à ce que le monde revienne à Dieu. » C'est ce à quoi je suis appelé. L'appel de Dieu à Israël demeure. Israël a été choisi pour être la lumière des nations et amener à Dieu toutes les nations. Et ça demeurera, ça demeure, même si aujourd'hui, il n'y a que la partie messianique qui est dans cette réalité, mais l'appel d'Israël demeurera un peuple qui amène les nations à Dieu. Et nous, nous avons été greffés pour avoir cette même mission. Ramener les peuples. Voilà, vous voulez être un héros comme Yochebed ? Soyez celui et celle qui siège véritablement au conseil de Dieu, qui est assis dans les lieux célestes avec Christ. Soyez celui ou celle qui permet au peuple de retourner à Dieu. C'est cela, être un héros. C'est pas se dire, voilà, moi j'ai tué 800 hommes ou j'ai accompli telle chose. Il y a un deuxième héros qui s'appelle Éléazar. Il est dit qu'il était l'un des trois vaillants hommes. Donc il y en avait trois, mais c'est lui qui est cité. Ce n'est pas les deux autres qui sont avec lui dans cette partie, mais il y avait trois hommes. Il était fils de Dodo, fils d'Aoï, et il a été confronté à l'adversaire devant les Philistins, et il a suivi son roi, David. Et il a suivi son roi pour combattre les Philistins. Et il dit, c'est lui qui se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main soit lasse et qu'elle reste collée à son épée. À quoi, en quoi ce héros-là peut-il nous parler aujourd'hui ? Il nous parle de la question de la persévérance. Il s'est battu jusqu'à ce que sa main reste collée à son épée. Il s'est battu dans le temps. Il n'a pas donné 3 coups d'épée, puis après il dit, bon, on va aller prendre la pause café. Hein, on voit ça dans Astérix et, en Bretagne, hein, en Grande-Bretagne, où on voit qu'à un moment donné, vous avez les Anglais qui se battent contre les Romains, puis à un moment donné, sur le champ de bataille, ils disent « Ah, stop, 5 o'clock tea !» Est-ce qu'on n'est pas parfois des 5 o'clock tea chrétiens ? C'est-à-dire que dans notre combat qui demande de la persévérance, est-ce que vous êtes des héros de la persévérance ? Dans votre foi, dans votre service, dans votre appel ? À chaque fois que je vais à la plage des Galvèzes, vous savez pas ce que c'est la plage des Galvèzes. C'est des amis qu'on avait autrefois qui venaient dans notre église et ils allaient toujours sur cette plage-là. Donc c'est devenu la plage des Galvèzes. Plus personne connaît les Galvèzes. Et c'est pas sur la carte. Mais quand on va à la plaque des Galvèzes, on passe toujours devant une maison jaune où il y a écrit Elkana. À chaque fois, je regarde cette maison. Vous savez pourquoi ? Parce que dans les années 70, il y avait un jeune homme qui s'était converti. Puis ce jeune homme-là, il s'est donné à Dieu et il a commencé à servir Dieu. C'est il y a presque 40 ans, 45 ans. Et ce jeune homme-là est toujours là, assis au premier rang. Il a la main collée à son épée. Ah ouais. Parfois, on me dit, oui, Michel, ceci, Michel, cela. Oh, c'est important qu'il soit là, etc. Ouais. J'aimerais que l'Église soit composée de héros de cette nature qui, 40 ans après, sont toujours avec la main collée à leur épée. Des Jean-Marc de Bois. Quand on les regarde, on se dit... Il a commencé sa route quand ? Il y avait son papa qui était encore parmi nous il y a quelques mois. On se dit, c'était un homme chrétien, médecin. Il est resté fidèle dans son engagement pendant des années, des décennies. Où sont les Éléazar aujourd'hui qui disent, je commence le combat et je garderai mon épée, je combattrai le temps qu'il faudra. Ouais, Michel, c'est un de mes héros, hein. Ah ouais. Je dis souvent que c'est lui qui a un peu, avec deux autres frères, décoincé l'homme que j'étais par rapport à la lecture et l'étude des Écritures. Où sont les hasards aujourd'hui dans l'Église ? Quand
le roi, oui, venait voir Daniel dans la fosse aux lions, le roi prend la parole une fois qu'il est dans la fosse aux lions et lui dit. Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te sauver. Bon, je t'ai mis dans la fosse aux lions, mais puisse le Dieu que tu sers avec persévérance, puisse-t-il te sauver. La persévérance, c'est aussi ce qui nous permet de combattre et de demeurer vivant en lui. Et un peu plus tard, il s'approche de la fosse, il appelle Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Qui a été libéré des lions parce que, avec persévérance, j'ai marché, j'ai tenu, j'ai combattu, jusqu'à ce que ma main soit lasse. Oh, le fait de combattre, on a beau dire, oui, ça fatigue. Et on a le droit d'être fatigué. Mais pour autant, est-ce que je continue à combattre pour Dieu ? Parce que c'est là mon appel. J'aime beaucoup l'épître de Paul à Timothée. Vous savez, c'est ce qu'on appelle une épître pastorale. J'aime beaucoup cette épître-là parce qu'il y a un discours d'un homme âgé qui sait qu'il est plutôt au bout du chemin, qui a accompagné depuis sa jeunesse, depuis qu'il était jeune homme, un jeune homme qui s'appelait Timothée, qui l'a accompagné jusqu'à ce qu'il devienne un apôtre, un serviteur de Dieu. Et dans le message qu'il donne à Timothée, il lui dit toujours de persévérer et de garder ce qu'il a reçu.
Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Attends, Paul, j'ai pas fini de noter. Ah oui, tout ça. Combat, le bon combat de la foi. Ça, c'était mon verset de baptême. Un de mes versets de baptême. Combat, le bon combat de la foi. J'ai 62 ans aujourd'hui, est-ce que j'ai combattu le bon combat de la foi? Je ne sais pas. C'est les autres qui le diront, puis c'est surtout le Seigneur. Mais est-ce que j'ai combattu le bon combat de la foi? Est-ce que tu as combattu, est-ce que tu combats le bon combat de la foi auquel tu as été appelé? Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Attends, jusqu'à quand? Jusqu'à l'apparition de notre Seigneur. Je suis obligé de tenir jusque-là, Seigneur? Bah oui. Ouais, mais ça peut être long. Bah oui. Est-ce que tu es prêt à t'engager? C'est là ton appel. C'est là mon appel. Jusqu'à l'apparition, jusqu'au retour de Christ. Je suis appelé à garder toutes ces choses, à persévérer, à combattre le bon combat de la foi. Est-ce qu'on est prêt à combattre le bon combat de la foi? Ou bien on se dit, oui, mais alors, juillet, août, là par contre, je suis en vacances. Et puis, d'accord le mercredi soir pour un réunion de prière, mais lundi, mardi, jeudi et vendredi soir, non, j'ai ping-pong. Quelle est la dimension de ma vie en termes de consécration? Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire ping-pong, hein. Mais quelle est la priorité? Quel est le combat de ma vie? Sommes-nous des Éléazar dans notre vie? Puis le troisième, c'est Shama. Les Philistins s'étaient assemblés à Lehi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles et le peuple fuyait devant les Philistins. Shama se tint debout au milieu de la pièce, la reprit et frappa les Philistins et l'Éternel opéra une grande délivrance. Quel héros! Quel héros? Qui veut être Shama? Oui, une? Ah ben on a une, deux. Julia, je ne sais pas, elle se gratte le menton, donc je ne sais pas si elle veut être Shama. Qui veut être Shama? Attendez, remporter une pièce de lentille. Quand même! Se battre pour un jardin de lentilles, ça vaut le... Personne! Personne, si, une. Moi, je veux. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le discours ambiant, c'est... J'ai eu cela dans l'église apostolique récemment, il y a quelques mois. Un jeune homme, un couple pastoral qui était en formation pastorale dans une de nos églises, une église stable, bien implantée et tout. Et puis, au bout de quelques mois, ils ont dit, vous savez, c'est pas notre appel. Nous, on est appelés à vivre notre foi et à servir dans une méga church aux États-Unis. 150 membres dans une église, c'est vraiment une pièce de lentille. Vous savez, on est appelés pour aller dans une méga church et donc on va arrêter le stage pastoral pour... Ah ouais, d'accord. Je dis pourquoi pas, moi je ne remets pas en cause. Mais j'entends cela depuis quelques années, de manière tellement récurrente. Moi, je veux bien servir, mais pas dans un jardinier. Moi, mon jardin, c'est la Beauce. Au moins, des hectares et des hectares à moissonner. Cet homme, ici, Shama, c'est un homme qui, dont le nom dit, signifie étonnement ou désolation. Quand vous avez que un jardin de lentilles à défendre, pour dire, c'est un peu la désolation. Alors que, aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, vous avez des territoires, des églises. Et qui se battra pour les champs de lentilles? Qui aura l'humilité de dire, c'est pas la taille du champ qui importe,
c'est la pensée, la volonté de Dieu, là où il me veut. Il y avait un pasteur d'une église de la fin du 19e siècle qui était un tout petit pasteur d'une toute petite assemblée. Ils étaient une petite quinzaine. Il a assumé son service pendant des années et des années. Il a assumé son service. Il y a un jeune homme qui est venu, 15 des personnes âgées. Hein. Il n'y avait aucune guitare électrique, hein. Rien. Puis il s'est converti. C'est devenu le plus grand prédicateur que l'Europe ait connu. Il s'appelait Charles Spurgeon. Il s'est converti dans une église, un terrain de lentilles, que cultivait patiemment et fidèlement le pasteur. Le monde a été bouleversé par le fruit de son travail. Mmh.
Vous vous rappelez de l'évangile de Matthieu, entre autres, qui parle, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui récolte où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. » Est-ce que nous pouvons considérer que ce qui nous est confié ressemble à un seul talent? Alors que Michel, il a 3 talents, pourquoi moi j'en ai qu'un? Oh non, c'est pas juste. Puis en plus, le Seigneur va me demander d'avoir un rendement aussi important que celui de Michel. C'est pas juste, j'ai peur d'enterrer mon talent. Ce n'est qu'un champ de lentilles. Mais Dieu te demande, là où tu es, là où il te place, là où il te veut, d'être comme un chama qui dise, voici, tout ce que ta main trouve à faire, dit l'Ecclésiaste, avec ta force, fais-le, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Soyons de ces 3 héros. Relisez ces quelques versets de 2 Samuel 23:8 en disant, voilà, est-ce que je peux être comme le premier qui est un homme qui habite, siège avec Dieu, comme je siège avec Christ, et qui fait revenir le peuple? Est-ce que je peux être celui qui, comme le deuxième héros, est persévérant dans le temps? Et est-ce que je suis comme Shama qui dit, là où je suis, où tu me veux, c'est là que je te sers, Seigneur. Notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole, une parole qui n'est pas là pour nous écraser ou nous donner des modèles qui soient inatteignables, mais une parole qui nous dit, voilà où je t'attends, sur quel terrain j'attends ta foi et ta fidélité. Alors Seigneur, ce matin, Seigneur, donne-nous d'entendre ta parole et de la mettre en œuvre dans nos vies, dans ma vie. Amen.